On va maintenant entendre la première communication de l'après-midi, celle de Christian Oedlin, qui va nous parler des 100 albums de punk rock. Et Christian Oedlin, vous le connaissez bien, c'est un participant très régulier des séances du programme punk, mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu tout terrain, parce qu'après des dictionnaires sur la chanson française, après des biographies sur des chanteurs français, il va maintenant venir nous parler de ses derniers ouvrages qu'il a d'ailleurs sous la main. Et donc c'est cette liste des 100 meilleurs. Ou peut-être 100 albums punk, de manière générale. Je lui cède
la parole. La question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y en avait 100 ? Bon, il y en avait 100. Le choix n'a pas été compliqué non plus. Voilà. Je vais réagir tout de suite. Vous avez vu les images des Berruriers Noirs, c'était à l'Olympia, on y était. J'ai le souvenir de quelqu'un sur le trottoir en face à moi qui me dit. Enfin, qui parle à un ami à lui qui dit ça y est, le punk est mort. Eh ben non, heureusement. On est 30 ans après, il n'est pas mort. J'ai tenté dans ce livre, c'est pas de la pub, mais je savais pas comment, je pouvais pas tous les amener en fait. Mon idée, c'était de raconter un mouvement à travers les albums. Donc j'ai mis un album et je raconte une petite histoire parce que j'ai rencontré un intervenant sur deux, on va dire. Donc je vais, et voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que le punk n'a pas 40 ans, mais selon moi, il en a 50 ans. Je commence l'histoire des punks aux Seeds. Alors, pourquoi je commence aux Seeds ? Parce que j'essaye de répondre aussi à plein de questions qui ont été un peu posées ce matin. Vous savez, il y a un lieu dit ou une légende qui veut que les punks ne savent pas jouer. Et en fait, c'est à cause de ce groupe-là que c'est né. Alors, c'est un peu plus rock garage quand on l'écoute, mais eux, ils jouent avec deux accords. Et en fait, comme les Seeds ont été repris par des groupes comme les Ramones, par exemple, on dit « Ah bah oui, ils savent pas jouer, ils ont deux accords ». Donc moi, je fais commencer l'histoire un petit peu plus tôt, en 67. C'est bien, ça tombe bien, ça fait 50 ans. Et je vais la terminer avec des groupes, à mon avis, que tout le monde connaît, donc les Libertines, parce que quand vous écoutez ça, c'est forcément le clash qui résonne dans vos têtes. Alors les Kills, c'est un groupe qui joue encore, ils étaient rock en scène, voilà. Ça c'était juste pour vous montrer que le rock n'est pas mort. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, vous ne voyez pas bien, c'est un monsieur qui s'appelle Jay Retard. Il est mort, il avait une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui venait aussi de la scène un petit peu plutôt garage, mais qui a fait le do-it-yourself. C'est-à-dire qu'il a autoproduit ses disques dès l'âge de 16-17 ans. Il a été très très actif dans la scène de Memphis. Et je vais terminer avec les Parquet Courts. Ça, quand vous écoutez ça, c'est Television aujourd'hui, quoi. C'est vraiment voilà. Alors ça, c'était juste pour vous dire que le punk n'est pas mort et qu'il est l'autre chose intéressante à mon avis, c'est qu'il est très très riche. Parce que quand on parle de musique punk, bon, il y a des clichés. C'est né en 77. C'est le Clash et Sex Pistols. Puis c'est tout, quoi. C'est les Ramones. Bon. Ben non, il y a plein d'autres groupes qui ont servi de genèse et de base à ce mouvement-là. Donc c'est ça que j'essaye de raconter, en fait. Alors je vais aussi réagir sur des points qui ont été abordés il y a 30 secondes, là, sur le problème des situationnistes. Faire une jonction entre situationnistes et punk, on oublie tout de suite, parce qu'en fait, quand vous demandez à Johnny Rotten, quand vous demandez à Jimmy Reed, quand vous demandez aux gens qui étaient en 77 à Londres, et encore pareil en France, hein, quand vous demandez au Metal Urbain ou aux membres d'Asphalt Jungle ou à tous les groupes de la première vague, personne ne savait ce que c'était les situationnistes. Hein. C'est quelque chose qui a été amené par un écrivain, Greil Marcus, une sorte de mise en perspective, parce que l'un des mots d'ordre quand même des situationnistes, c'était ne travailler jamais. Donc ils se sont dit, tiens, ça résonne. Mais bon, aucun des punks de la première vague ne savait ce que c'était. Parce qu'on a vu un petit sujet là. Sauf Jimmy Reed, qui est la personne qui a fait les pochettes des Sex Pistols, avec des détournements de logos, notamment celle de la reine, celui de la reine. Et lui avait une initiation à l'histoire de l'art, et il savait qui étaient ces situationnistes. Mais c'est le seul. Bon. Je vais revenir au Sex Pistols parce que je voudrais aussi réagir sur tout ce qui est le National Front, hein, l'extrême droite, cet autre cliché sur la musique punk qui est le no futur. Combien de fois on entend ouais, les punks, de toute façon ils n'étaient pas faits pour durer, ils le chantaient eux-mêmes, no futur, on n'en veut pas. J'ai l'impression que tout le monde oublie que le No Future que les Sex Pistols prônent ou écrivent dans leurs chansons, c'est la vision qu'ils ont, eux, de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on est en 77, et quand Johnny Rotten écrit « There is no future in England's dreams », c'est uniquement parce qu'il sait qu'il y a une énorme... Le chômage a explosé dans ces années-là, et qu'il est furieux contre la reine, en fait. Parce que, selon lui, la reine Elisabeth, c'est une sorte de reine fasciste. Et en fait, il n'y a pas de futur pour cette Angleterre-là. C'est pas du tout, il n'y a pas de futur pour les punks. C'est tout ce genre de choses que j'essaye de raconter à travers des disques et à travers des petites biographies d'artistes. Voilà. Donc c'est un petit peu confus la façon dont je vous le présente, mais j'ai essayé toujours d'apporter des réponses à ce genre de questions. Et le No Future, moi je suis encore étonné qu'on me dise « mais les punks, ils prenaient eux-mêmes le No Future ». Non, c'est pas du tout ça. Bon. On a parlé... On a vu aussi quelques images sur le dadaïsme. Bon, bah, évidemment, là encore, c'est du Grell Marcus, et là encore, c'est quelque chose qui est arrivé bien, bien après. Mais ce qui est amusant, c'est que le dadaïsme voulait faire table rase du passé. Parce que, comme les Sex Pistols, ils n'étaient pas très contents de leur époque. En l'occurrence, on est au début du siècle dernier. Enfin, je ne vous apprends rien, j'imagine que vous savez tout ça, mais les dadaïstes étaient furieux de la Première Guerre mondiale. Et ils étaient furieux de cette époque, de ce qui était arrivé et ce que ça avait débouché sur la guerre mondiale. Et en fait, c'est ça le dadaïsme. Ils voulaient faire table rase du passé pour amener une nouvelle société. Bon, voilà. Et en fait, j'ai parlé du situationnisme, du dadaïsme, et il faut parler aussi du futurisme, qui sont les trois grands courants de pensée qu'on va amener, qu'on va assimiler au punk rock. Bon, encore une fois, voilà, avec beaucoup de réflexions et beaucoup de livres lus entre-temps. Donc le futurisme, c'est exactement la même chose. Hein. On veut toujours détruire l'ancien monde pour en construire un nouveau. C'est pour ça qu'on les assimile au punk rock. Bon. La naissance du punk rock, 67, les Seeds, à cause des deux accords. Ensuite, moi je parle du Velvet Underground, parce que c'est le seul groupe qui, dans les années 60, célèbre les plaisirs urbains, on va dire, et c'est le premier groupe qui va commencer à parler de dope. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de dope dans les groupes de rock et de punk rock, quelles que soient les vagues. C'est-à-dire que même dans les années 90, en Californie, on se dit ils ont le soleil, ils ont le surf, ils n'ont pas de raison de se droguer. Le chanteur de Sublime, il est mort d'overdose, etc. Donc, ce sont les trois premiers groupes, les Seeds, le Velvet et les Stooges. Alors, là encore, j'imagine que ce sont des évidences pour vous, mais les Stooges sont excessivement importants parce que Iggy Pop est le premier à se jeter dans la foule, donc il invente le stage diving et ce pogo monstrueux qu'on a depuis 30-40 ans. Alors j'ai essayé de trouver pourquoi il se jetait dans la foule en fait, et il me disait que les tout premiers concerts des Stooges, hein, ça fait un peu prétentieux de dire il me disait, mais il m'a vraiment dit ça. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il n'y avait pas tellement de chansons au tout début. Les premiers concerts, c'est avant l'enregistrement de l'album, le premier à New York. Et en fait, les chansons ne sont pas très construites. Et Iggy Pop, il se rend compte que c'est pas terrible, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il va se jeter dans la foule pour essayer de créer une sorte de happening. C'est ça le moteur du premier saut d'Iggy Pop. Et ensuite... Sur ce premier album des Stooges, vous avez les trois grands thèmes chers au punk. Alors je vais dire le nihilisme. Alors il y a No Fun, 1969, I Wanna Be Your Dog. Donc la sujétition avec I Wanna Be Your Dog, hein, j'ai envie d'être ton esclave. Des thèmes qu'on retrouve dans un groupe d'aujourd'hui qui s'appelle les Vaccines, par exemple, que je vous recommande d'écouter. Vous avez donc le No Fun, je m'ennuie. Et le 1969, c'est vraiment un regard sur la société, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà. Et Iggy Pop, comment il a écrit ces chansons-là? En fait, il allait au fast-food à côté de chez lui, à Ann Arbor, enfin à côté de la maison où les Stooges habitaient. Et puis, il observait les adolescents, les gens qui avaient un peu son âge, une vingtaine d'années. Et en fait, toutes ces chansons sont vraiment des sortes de petits clichés sur leur société, sur la société de l'époque. Et c'est assez fascinant de savoir qu'on est en 69... Et que le mot punk, dans l'esprit des gens, ne va naître qu'avec l'année 77. Pourquoi 77 ? J'imagine que vous avez réalisé que c'est aujourd'hui les 40 ans de l'album des Sex Pistols. C'est un anniversaire. C'était en octobre 77. Voilà, donc j'essaye de raconter tout ce genre de choses en prenant les prismes de petites de groupes. Et je m'aperçois aussi que le punk rock, donc c'est pas forcément des gens qui hurlent et qui jouent très rapidement. Vous avez le groupe du Clash, hein, qui va amener toute cette épice reggae, qui va être beaucoup, beaucoup repris. Aujourd'hui encore chez les Dropkick Murphys, qui sont vraiment un mélange de reggae et de punk rock. Et vous avez, j'ai envie de dire, tous les enfants du punk rock. Alors ça va de Siouxsie and the Banshees à Joy Division, en passant par les Punks Not Dead, et en passant par les Lost of the Church ou les Cramps. Alors j'ai essayé de les prendre dans l'ordre. Le rock gothique, hein, les Siouxsie and the Banshees, c'était la première petite sirène gothique qu'on a vue tout à l'heure dans l'émission de Bill Grundy. Voilà, donc un petit peu plus de noirceur, mais un petit côté plus pop dans le traitement de la musique. Vous avez un groupe qui est cher à beaucoup, c'est Throbbing Gristle. Moi, j'assimile Throbbing Gristle au mouvement punk parce que il y a cette phrase célèbre de Genesis qui a dit « Mais j'ai pas envie d'apprendre trois accords, pourquoi je vais apprendre trois accords pour faire des chansons ? C'est pas la peine. » Donc on voit bien que c'est une réaction à la musique punk rock. Ensuite, vous avez les groupes Punks Not Dead, c'est-à-dire au début des années 80, en Angleterre, des groupes comme Exploited, comme Crass, vont être encore un petit peu plus engagés politiquement. Alors là, on revient au Sex Pistols avec le No Future, avec la montée du National Front pendant qu'il y a beaucoup, beaucoup de chômage. Margaret Thatcher, elle arrive en 79. Et là, le régime va se durcir un petit peu. On peut faire un parallèle avec Macron si on veut, parce que c'est ce que beaucoup de gauchistes pensent aujourd'hui. Et vous avez une explosion du rock punk à tendance anarchiste. Donc Crass en est un symbole. Je vais essayer d'écouter et de relire. Et puis des groupes comme Exploited. Et ensuite, dans les années 80, vous avez des gens comme les Cramps. Alors les Cramps, c'est punk, c'est pas punk, ils sont nés du punk. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur le passé. Ils ont fait beaucoup de reprises, des reprises de rock, des reprises de garage. Mais dans la forme et dans l'expression, ça aurait jamais pu voir le jour si le punk n'était pas passé par là. Et ensuite, je vais faire un petit saut dans les années 90. Aux États-Unis, vous avez des groupes qui vont enfin vendre. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de punks qui aiment les pionniers, qui aiment les Ramones et compagnie, détestent, abominent des groupes comme Green Day, Offspring, Blink-182. Voilà. Mais ce sont les premiers groupes punk de l'histoire qui ont vendu. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même quand un genre rencontre le public. Et quand vous rencontrez ces gens-là ou quand vous lisez leurs interviews, leur goût, c'était toujours les Ramones, les Sex Pistols. Et il n'y a pas de différence avec la forme du punk de 77 et Green Day. C'est vraiment des enfants qui se sont nourris de ça, qui ont resservi cette musique. Et je l'ai dit tout à l'heure en reprenant certaines mauvaises habitudes pour quelques-uns d'entre eux. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le punk, c'est une vraie culture qui a 50 ans d'âge et que c'est pas mort. Et que quand des gens, journalistes ou des gens comme Marc Zermati vous disent que ça existait en 77, 78 et depuis c'est mort, moi je suis pas du tout d'accord. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, que j'ai réécouté et redécouvert plein de groupes. Et puis voilà.